divino luxo, navio negreiro, graal, puro cristal, desespero, rosa robô.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 19 décembre 2009, nos programmes pour cet après-midi. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Faraï. Et à 17h, FMR, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la télévision de demain que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié un truc? Mes BD?
Ouais.
Merde!
Non mais c'était sérieux ou c'était fait exprès? T'as pas
ben,
fait exprès?
On en est à la page 14 du script, effectivement, je me suis trompé.
Ah là, c'est énorme. Il m'avait plusieurs fois squeezé mes chroniques, mais les siennes, alors ça c'est énorme.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geek, avec du sport, Ultimatum, Das Peach et la participation exceptionnelle de JB.
Décidément, aujourd'hui, je suis mafré, je pense. Bonjour Thomas, comment vas-tu?
Eh ben, ça va bien, Xavier.
Ça va pas trop froid?
Bah, c'est un temps froid et sec, un temps angoumoisin. Le festival de BD approche.
On paraît qu'on va refaire un direct de là-bas cette année.
Il paraît.
Alors, bonjour Solarus.
Salut.
Donc, c'est notre invité cette semaine. Il est là pour causer de l'interview qui aura lieu. C'est pas lui l'interviewé, et non. On va changer un petit peu l'ordre, je vais dire, habituel. Et pour terminer, ben, du sport va arriver dans quelques instants. Et j'espère qu'il y aura du café parce qu'on se les gèle un peu. Et.
Il y a un Solarus qui est en schtroumpf vert en t-shirt là. Et il a pas fait exprès à sortir au micro, vous avez pas la couleur.
Non, il paye pas la redevance, nos auditeurs, si tu veux. Et pour ce qui est de JB, je crois qu'on va finir par le couper du générique.
Il va être coupé au montage.
On sait au moins qu'il n'est pas coupé, hein, il pouponne.
C'est nul.
Oui. Bon, complètement. Ça, c'est fait. J'approuve. Du sport arrive et cela tombe bien. Alors.
Oh, un joli bonnet avec pompon.
Gentil, tiens. Je tiens à signaler que cette émission va parler d'une chaîne de télévision qui parle de contre-culture, culture alternative, culture électronique, culture geek et de culture japonaise, mais que dans l'émission supplément week-end, il n'y aura 0% de musique de fond d'origine japonaise. Sauf un morceau. Celui qui le découvrira, eh ben, gagnera une série manga. Et puis voilà, ce sera mon cadeau de Noël.
Une série, carrément.
Oui, bah, elle vient à peine de commencer. Tome 5, tome 6.
Ah bon?
Oui, quand même. C'est le numéro 220, ce qui veut dire que c'est une spéciale courant alternatif dans le supplément week-end. Et celle-là, je me suis creusé pour la chercher. C'est-à-dire qu'un coup, ça marche et un coup, ça marche pas. Tout cela pour dire, eh ben, on va parler justement de ceux qui préparent, je veux dire, les médias de la prochaine fois. Tout ça parce que les médias actuellement, ben, sont un petit peu sclérosés. Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz à Toulouse, et cette semaine, on fait les 29 ans de cette station, puisqu'elle est officiellement lancée le 20 décembre 81. C'est à ce moment-là qu'elle a l'autorisation de la Haute Autorité. Et quand elle est arrivée, ben, l'écoute de la radio, c'était devenu quelque chose de sclérosé. C'était contrôlé par l'État, soit directement pour les stations de Radio France, soit il y avait aussi FR3 Radio, on l'oublie, hein, ce qui allait devenir plus tard les locales. Et d'un autre côté, il y avait les radios périphériques, ça soit RTL, Sud Radio, RMC et Europe 1, qui étaient contrôlés indirectement par l'État via la Sofirad. C'est-à-dire que quoi que vous écoutiez, les stations appartenaient à un monopole imposé par l'État ou de fait dans les stations périphériques qui étaient à l'extérieur des frontières françaises. Ce qui fait que ben il n'y avait pas grand-chose. Et puis en 81, Mitterrand qui avait lutté contre les radios privées qui pour lui était le syndrome du grand capital, etc. Mais surtout parce qu'il avait une dent vis-à-vis de deux personnes, à savoir Radio Lyon et Radio Toulouse. Mais ça, il y a une radio qui il explique très bien, c'est France Culture, avec une émission qui s'appelle Mégahertz, qui est à 15h30 tout à l'heure sur la FM. D'un coup, des milliers de postes privés ont fleuri, d'origine surtout associative. D'autres sont devenus des grands groupes et des grands réseaux, que ce soit NRJ, Europe 2 est arrivé après, je dis une bêtise, RFM et tout le reste sont des radios qui ont fleuri dans le départ, je vais dire, des radios libres privées, comme FMR. FMR, nous on est resté notre petite merde, on est resté fidèle à nous-mêmes, et d'autres sont devenus des grands péteux, des trucs quand ils diffusent un artiste qu'ils veulent soutenir, c'est un gros P qu'on entend. Bref, la radio pue un peu maintenant. D'un autre côté, regardons la télévision maintenant. Il y a une centaine de chaînes de télévision qui existent, et ces chaînes de télévision sont toutes rattachées soit à l'État, via l'actionnariat, soit à des grands groupes privés, que ce soit Lagardère Active, cela soit RTL Group, alias groupe M6, et tous ces groupes-là. Bref, il n'y a plus vraiment de réel indépendant, je veux dire, de ce côté-là, dans les chaînes de télé. Et ben, une petite chaîne commerciale est arrivée il y a 2 ans et demi, et a décidé de parler de ce dont elle avait envie, ne cherche pas l'audience à tout prix en faisant dans le consensuel, mais au contraire à être accessible au plus de monde possible pour en parler. Cette petite chaîne, c'est No Life, c'est une chaîne dont on est fou furieux, même si l'émission de Supplément Week-end a été lancée bien avant, 3 ans avant eux. On les suit régulièrement parce que justement, ils parlent de jeux vidéo, ils parlent de films, ils parlent de plein de choses, je veux dire complètement allumés. On comble du chic, je veux dire, leurs patrons sont parfaitement accessibles et sans langue de bois. On a eu Sébastien Ruchet l'an dernier, qui est le gérant et directeur administratif de la chaîne. C'était une émission qui a été diffusée le 30 août 2008. Et il a raconté plein de choses, je veux dire, c'est exactement le genre de choses qu'un patron de chaîne de télé, ou même la plupart des patrons de radio, refusent de parler. Lui, il en a discuté à bride abattue, et on en a été littéralement surpris. On a eu aussi quelques-uns de leurs animateurs, notamment la troupe de nerds que l'on a interviewé, et d'ailleurs hommage à Davy. Et d'un autre côté, on avait la partie technique, on avait la partie animatrice, il nous fallait la partie programme, je vais dire, à savoir Alex Pilou, le directeur de programme de cette télé complètement fou furieux. On l'a coincé lors du dernier Toulouse Game Show qui a eu lieu fin novembre, donc à la Beige, à côté d'ici, pas très loin. On s'est fait plaisir évidemment, et on a voulu lui poser tout plein de questions. Et c'est parti avec donc cette interview de Alex Pilou qui a été enregistrée il y a un mois, avec la participation de Thomas, et cette interview sera retrouvable en vidéo sur le site du Supplément Week-end.
Bonjour. Bonjour.
Tu es la partie, je vais dire, plus software de la chaîne No Life, puisque toi, c'est justement tout ce qui concerne la mise au point des programmes, la programmation, le tournage de la caméra, le montage des programmes et la diffusion des programmes. Qu'est-ce qui des programmes ne dépend pas de toi ?
Les bugs ? Je peux quoi trop dire. Non, en fait, sur No Life, il y a des programmes qu'on fait en interne, comme 101%, qui sont des productions No Life qu'on produit nous-mêmes, et aussi des productions externes. Donc il y a des émissions japonaises, comme Japan Emotion ou Kill la Kill la Japon. Donc, ces émissions-là, entre guillemets, ne dépendent pas de moi, parce que je ne vais pas leur dire faites ci ou faites ça. Mais bon, au départ, ils nous l'ont proposé, on a regardé ce que ça donnait, et on a dit que ouais, ça nous semblait intéressant pour l'antenne. Et on leur a donné un créneau. Voilà.
Combien de programmes tu réalises ? C'est un nombre assez impressionnant, stacanoviste, je dirais, carouchiesque. C'est loin du standard français de production.
Réaliser, monter des programmes de vidéo, ça prend beaucoup de temps en fait, beaucoup plus de temps. C'est comme le dessin, ça a l'air simple, mais quand on le fait vraiment, on se rend compte que ça fait que c'est beaucoup de travail. Et en fait, sur No Life, plus ça va, en général, les émissions, je commence à les faire moi, et souvent après, les gens qui sont avec nous, à nos lives, qui travaillent, prennent de plus en plus en main leur émission eux-mêmes. Par exemple, Eden Palace, au début c'était moi qui réalisais, je devais tout faire dessus. Enfin, la cave apportait évidemment son contenu, voilà, tout le contenu jeu vidéo. Moi je faisais la réa, le montage, etc. Et petit à petit, la cave a pris en main le truc, il a commencé à monter lui-même l'émission. Maintenant ils sont à deux, lui et Jonathan, et donc, d'une manière générale, les émissions, à chaque fois, comment dire, il y a des gens qui m'aident pour les faire et ça me permet d'en faire d'autres. Donc, si on prend actuellement ce que je fais pour nos lives chaque semaine, donc je tourne le chez Marcus, mais c'est plus moi qui les monte. Je tourne et je monte le JTop et c'est mon vote. Tokyo Café Debug Mode. Je fais aussi les news dans le coin des abonnés. Bah, les coins des abonnés, je les faisais jusqu'à la semaine dernière et maintenant c'est Rémi qui a repris. C'est dur comme ça, faudrait que je... Et après, il y a beaucoup de choses aussi sur le moment, un reportage par-ci. Par exemple, là, je vais faire le montage du reportage de Zelda qui va passer la semaine prochaine, mais ce sera pas moi qui ferai le suivant. Tu vois, ça dépend aussi des semaines, des dispos de chacun. Bon, voilà, par exemple, s'il y a une soirée 18+ et qui est à la bourre, on va demander de l'aide à tout le monde, ça va ?
Non, ça va.
Ok. On va demander de l'aide à tout le monde, donc il faut moi aussi que j'aide un peu et que je fasse par exemple le montage d'une critique ou un truc comme ça. Mais ce qui prend aussi beaucoup de temps, c'est les playlists. C'est-à-dire tout ce qui est travail de faire la grille en fait. Chaque soir.
La tracking list pour la diff.
Exactement. Mettre les autopromos. Les autopromos, c'est les bandes annonces. Par exemple, ne ratez pas Windy Tales à 19h30. Ben, faut les mettre une par une aux beaux endroits. Ce genre de choses, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et voilà, grosso modo. Après, je pourrais trouver encore plein de petits trucs, mais voilà.
C'est une chaîne de geeks assez étonnante, puisque même le patron, il met la main dans la base de données MySQL, tout le monde bricole un peu. Le fait de vouloir passer par des systèmes de diffusion sur serveur, c'était vraiment le délire de geek aussi qui l'a emporté.
Tu parles du système de diffusion chez Cognac G, où on upload et... Ben, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec un délire de geek, c'est plutôt... Ah mais c'est un système qui est abordable, et ça veut dire que même nous, entre guillemets les clodos de la télé, on pourrait faire un truc. Tu vois, une vraie chaîne de télé, mais ça coûte mais super cher à diffuser, c'est juste inimaginable. Il faut avoir l'appui d'un énorme groupe de médias derrière pour pouvoir lancer une chaîne. Et là tout d'un coup on se dit, mais c'est comme les radios libres, on peut faire nos programmes, on les upload sur ce serveur, on fait les playlists qu'on veut, on fait la chaîne qu'on veut. C'est plus... C'est pas le côté technique qui est séduisant en disant « Ah, c'est génial, c'est trop geek, wow, so geek !» Non, c'est juste « Ah putain, ça nous permet de faire ce qu'on veut !» C'est plutôt ça, quoi.
Alors justement, le mot « geek » a été galvaudé, récupéré par tout le monde, les agences de pub.
On fait pareil, c'est injuste.
Et justement, est-ce que tu penses que c'est un dégât collatéral de la popularisation de ta chaîne ?
Alors, je pense pas... Un dégât collatéral. Honnêtement, je pense pas trop, parce que de toute manière, il y avait déjà, avant même que No Life existe, des articles comme ça, les geeks prennent le pouvoir, on voyait Lucas et Peter Jackson et Tarantino qui disaient qu'il est geek, donc je pense que ce serait un peu prétentieux de dire ça. Par contre, je pense quand même que sur le mot No Life, avant qu'on lance la chaîne, je devais tout le temps expliquer, oui, à No Life, vous savez, c'est les mecs qui jouent tout le temps. Maintenant, à peine on a commencé à avoir des technique art, enfin plein de médias qui disaient, ah oui, les No Life, c'est si. Je pense que sur le mot No Life, ça a tilté, quoi. Donc, ça, c'était peut-être un bon choix. De nom.
Alors justement de ce côté-là, au début, vous étiez la petite curiosité du PAF. Il y a eu des sujets sur FR3, ça fait pas aussi vieux et tout ça sur Canal, sur plein de chaînes. Ouais. Et maintenant, après 2 ans et demi d'existence, comment vous êtes vu justement par la entre guillemets profession ?
Ah, c'est une bonne question. Ouais. On nous le dit pas. Alors je peux que supposer. Je pense que pour beaucoup de gens un peu sérieux, bon, on est des guignols, hein, je pense que c'est officiel, c'est pas sérieux ce qu'on fait, c'est n'importe quoi, on fait exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire pour faire de l'audience. Donc je suis assez convaincu là-dessus qu'on est un peu considéré comme un peu des punks qui je pense que les gens pensent qu'on sait pas où on va en fait. Ils se rendent pas compte qu'on réfléchit quand même et qu'on se pose plein de questions, que pour chaque décision est sous-pesée et qu'on fait rien au hasard et on n'est pas fou, quoi. Mais bon, c'est sûrement l'image qu'on doit donner. De temps en temps, on a quand même des retours. Ça fait plaisir de quelques professionnels qui, quand ils regardent, ils font « Ah, mais c'est pas nul en fait !» Ça fait plaisir. Oui, mais c'est ça qu'il faut voir. On joue tellement sur le côté ça se retourne contre nous, on joue tellement sur le côté ouais c'est fait avec des bouts de ficelle que les gens se rendent même plus compte qu'on fait les programmes avec soin. Et quand les gens découvrent, sans qu'il y ait un professionnel de la télé, qu'on lui montre vraiment les programmes, voilà, on fait ci, on fait ça, il va se dire, ah bah oui, en fait, c'est fait avec un niveau d'exigence moyen de la télé câble habituelle, quoi. Par contre, le présentateur, il va parfois sortir du champ, ou il va arriver, il va mettre sa chemise, faire désolé, je suis à la bourre. Toute cette décontraction est souvent confondue avec le professionnalisme. C'est-à-dire que les gens ont du mal à comprendre qu'on peut avoir quelque chose de très décontracté, avec la possibilité de complètement présenter n'importe comment, par exemple, mais en même temps, d'avoir derrière un sujet bien monté par un vrai monteur, avec un vrai comédien qui fait la voix off, avec un ingé son qui fait un bon mixage, et voilà, des problèmes de qualité, mais sans se prendre la tête. Je pense qu'il y a souvent une confusion. Est-ce que c'était ta question? Je sais plus.
C'était comment la profession, vous voyez? Dans ce cas-là, j'ai une évolution logique dans la question.
C'est parti dans tous les sens. Ouais,
mais non, mais c'est un plaisir, justement. Hein. Tu sais, nous, on est un format radio, on n'a rien à foutre de la longueur.
Bah, c'est très bien.
On tabasse l'émission qui est après. Non, je déconne. De ce côté-là, on a parlé de la France dans le milieu parisien des médias, etc. Maintenant, comment vous êtes vu du côté du Japon par tous vos contacts depuis 2 ans et demi?
Alors, c'est une très bonne question. Alors déjà, un truc qui est important à savoir, c'est que le mot ne fait pas peur au Japon comme en France. En France, ça fait très peur. Au début, quand on a lancé la chaîne, il y a beaucoup de gens, même des amis, qui nous ont dit « Ne faites surtout pas ça, personne ne voudra travailler avec vous, vous n'aurez aucun dessin animé parce que les éditeurs ne voudront pas passer leur dessin animé sur une chaîne qui s'appelle No Life. Vous aurez du mal à avoir des partenariats, des trucs et des machins. » Maintenant, c'est un peu rentré, plus personne nous le dit maintenant. C'est bon, c'est rentré dans le paysage, on va dire. Mais au Japon, il n'y a jamais eu ça. Parce que pour eux, ce nom-là ne sonne pas aussi négatif que chez nous. Quand on leur explique ce que ça veut dire, ils font « Ah ouais, quand même, c'est un peu chaud. » Mais ça les choque pas à l'oreille. Surtout qu'ils ont une chaîne de télé dont le slogan, c'est « No music, no life ». Donc c'est un côté très jeune, en fait. Presque branché, en fait, au Japon. Alors voilà, pour une première... Déjà, il y a ça, qui est important à savoir. Il n'y a pas cette chose-là. Ensuite, du Japon, les Japonais, c'est des gens qui aiment voir d'abord. Donc au début, tant qu'on n'avait rien fait, on n'était pas mal considérés, mais les Japonais attendaient un peu de voir ce qu'on allait faire. C'est normal, ils ne nous connaissent pas, on dit « Ouais, passez-nous du contenu, des clips ou des trucs ou autre chose ». Donc ils attendaient de voir un peu ce que ça donne. Maintenant que la chaîne a tenu 2 ans et demi, c'est plus facile, on peut montrer nos émissions, ils voient ce que ça donne. On peut leur montrer aussi qu'on a beaucoup de respect pour le Japon, ça les touche. Regardez, sur nos lives, on dit Toriyama Akira, on ne dit pas Akira Toriyama. Et ça les touche énormément. Enfin, ah ouais, tiens, bah c'est rare. Y a aussi quelque chose qui est important pour eux, c'est qu'en ce moment, ils ont un gouvernement qui fait des... Même, non, c'était le gouvernement d'avant, mais bon. Ils ont une espèce de campagne de gouvernement qui s'appelle Cool Japan, où ils essayent d'exporter la culture japonaise à l'étranger à travers les médias, à travers la culture japonaise pop. Tu vois, le manga, le cosplay, tu vois, le World Cosplay Summit, c'est dans ce programme-là, quoi. Et du coup... Pour eux, on les intéresse maintenant. Tu vois, par exemple, Kila Kila Japon et Japan In Motion, c'est un peu dans ce cadre-là. C'est une façon pour ces entreprises d'exporter, de faire découvrir la culture japonaise à l'étranger, en France. Voilà. Et nous, évidemment, on dit oui, bien sûr, on vous donne un créneau, on les aide à faire la traduction, on fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et évidemment, ils auraient demandé à n'importe quelle autre chaîne, on leur aurait claqué la porte au nez.
Alors en ce moment, la chaîne No Life connaît quelques difficultés puisque il y a des abonnements qui vous êtes pas encore au quota d'abonnement souhaité. Tu penses que tu vas faire quoi si la chaîne No Life s'arrête en fin d'année là?
Si la chaîne s'arrête en fin d'année, je serai très...
À part dormir pendant un mois.
Ah non, je vais pas dormir pendant un mois. Si la chaîne s'arrête en fin d'année, donc ce sera très triste pour nous, pour l'équipe, pour les spectateurs aussi. Je pense que c'est clair qu'on n'aura plus jamais l'occasion de s'exprimer comme ça. On fera d'autres projets, on fera d'autres trucs, un reportage par-ci, un truc par-là, mais on n'aura plus la possibilité d'avoir un média comme ça qui diffuse toute cette culture qu'on aime. Et je veux pas le faire un peu pompeux, mais avec respect, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se moquer du Japon ou des jeux vidéo. On le fait vraiment avec passion. Et parfois, on a des défauts, hein, je dis pas. Il y a plein de trucs qui sont pas parfaits. Hein. Mais on fait pas ça. On se pète la gueule les Japonais en regardant. Regardez comme ils sont cons avec leurs clips et tout. C'est pas du tout le délire. Et ça, je sais qu'on aura beaucoup, beaucoup de mal à retrouver un moyen de faire la même chose. Donc c'est sûr que c'est très, très angoissant. Mais ce qu'il faut voir, c'est que depuis le début du projet de No Life, on est toujours au bord de... au bord de la cata, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'au début, quand on a lancé le truc, avec Seb, on a eu une discussion, on s'est dit, bon, il faut quand même qu'on soit réaliste, on a très peu de chances d'y arriver, on va tenir 6 mois, pas plus, 90% de chances qu'on tienne pas plus que 6 mois, quoi. Et là, on s'est regardé, on fait, on le fait ou pas? Et on se dit, mais on serait bête de pas le faire, faut le faire. Même s'il y a que 10% de chances de le faire, allons-y, quoi. Sinon, on regrettera toute notre vie, ce serait trop bête. Et donc, on est un peu endurci à ça. On sait que tous les gens qui travaillent à NoLife en sont très conscients. Depuis le début, on leur a bien expliqué. Ils voient comment ça se passe. On a, il y a plusieurs fois où NoLife a failli s'arrêter. Donc, ça fait partie un peu de notre vie, quoi. On n'est pas non plus. Ça nous empêche pas de bosser, en gros. Voilà. Et, mais bon, on a quand même des abonnés qui nous soutiennent. On n'est plus très loin de ce qu'il nous faudrait. On a quand même des chances d'y arriver. Et ce serait bien, si on y arrive, ça pourrait aussi, quelque part. Montrer qu'il y a suffisamment de gens qui s'intéressent à cette culture qu'on défend, et ça nous ferait plaisir.
On voit, il y a Suzuka qui traîne juste à côté. Est-ce que t'en as pas marre d'être soupçonné de lui donner de la drogue?
Je vais lui donner de la drogue parce qu'elle est, elle est à fond, c'est ça, un peu coke et chic. C'est comme ça qu'elle a été parodiée, ouais, par Rudy dans Flanders, une espèce de Suzuka sous coke. Que dire? Elle se drogue au wasabi peut-être, mais
bon, on va passer à une autre question.
Plus loin.
On va poser une autre question alors dans ce cas-là. Quel est, d'après toi, le programme qui manque actuellement sur l'antenne de NoLife? Tu n'es pas obligé de répondre, la publicité.
J'aimerais bien une émission sur le hardware, avec des vrais tests de trucs de hardware PC, mais aussi console. Ce serait génial d'ouvrir des manettes de Wii, dire voilà, ça marche comme ça, ce serait trop bien ça. Et comme toujours, c'est ce qu'il faut bien, ce qui est difficile à comprendre vu de l'extérieur, c'est que ce n'est pas une chaîne où il y a une espèce de direction qui dit un directeur qui fait bon, sur ma chaîne je veux plus de ça, et puis alors les employés font ok, on leur fait plus de ça. Ça se passe pas comme ça. Quand on a une émission comme Oscillation qui arrive sur la musique de jeux vidéo, c'est pas nous qui avons dit bon, faut absolument qu'on trouve une nouvelle émission de musique de jeux vidéo. On en avait déjà une, c'était Autoplay. C'est Macha qui arrive avec un concept qui dit voilà, je voudrais trop faire ce truc là. On dit ouais, c'est génial, on va t'aider à le faire, on va lui donner les moyens techniques de le réaliser. Donc là, pour le hardware, en gros, ça veut dire que si on veut vraiment mettre cette émission en place, on doit arrêter quelque chose maintenant. Et je pense pas que ça va marcher comme ça. NoLife, ça va fonctionner autrement. Il y aura une rencontre peut-être à un moment donné avec quelqu'un qui a les compétences, la passion pour le faire. On va essayer de le faire avec lui, de monter son émission et d'en faire une émission. Mais je pense que c'est le truc qui manque en ce moment. Mais il y a plein d'autres trucs qui manquent. Hein. J'aimerais bien. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir d'autre? Bah, par exemple, on va essayer de faire plus d'explications autour des animés. On aimerait bien qu'il y ait des plateaux après pour expliquer. Voilà, vous avez vu cet épisode, ben, à telle minute, c'est USA qui a animé ce plan-là. Vous savez, c'est lui qui a fait Mind Game, que vous avez vu dans la critique animée. Ah ben là, il était jeune animateur à l'époque. Enfin, ce genre de truc, quoi. Voilà.
Moi, j'ai une question. Bon, elle vient après celle de Thomas. Non. Au contraire, ça nous fait plaisir. Puisque ce que vous auriez fait après, c'est à quand le prochain France 5?
Ben, il est monté, il est filmé, il reste encore 40% du montage à faire. Le gros souci, c'est que pour avancer, je peux avancer que pendant les vacances, parce qu'il me faut un peu de temps pour me mettre dedans. C'est-à-dire que je pourrais, par exemple, de temps en temps, oui, j'ai une soirée, ça arrive, je pourrais trouver une soirée pour faire France 5 de temps en temps, mais il faut ressortir les disques, les rebrancher, et surtout se remettre dans le projet, quoi. C'est-à-dire, bon, alors là, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Ce plan, il sert à quoi? À ressortir les storyboards, et il me faut 2-3 jours pour me mettre dedans, et après, je peux bosser 2-3 semaines, par exemple l'été. Et là, j'avance bien. Mais si j'arrive pas à avancer ponctuellement dessus.
Quel a été. Pardon.
Un mythe s'effondre, tu as donc des vacances?
Ah ouais, mais je n'ai pas à NoLife, hein. Parce qu'il faut faire les playlists, hein. Tous les soirs, je balance les playlists pour que les gens puissent voir les rediffs. Il y a quand même du boulot.
Déjà, le boulot est maintenant un petit peu plus avancé. Vous le faites plus sur Notepad?
Si.
Oh non.
Si, le programme Marvin qu'a créé Seb génère des playlists, donc c'est des M3U. Que j'ouvre sous Notepad et que ensuite, en fait, il crée une base. En gros, ça fait comme ça. À 19h, il va créer 101%, donc dedans, il y aura 101%, et des petits programmes derrière, on appelle ça les programmes de complément, pour être sûr d'arriver à la demi-heure au programme suivant. mais bien que 100% dépasse souvent la demi-heure lui-même. Ensuite, moi, je regarde tous mes plannings, je fais, bon, alors là, on a une campagne de pub, alors à 19h, je vais mettre telle pub, ah, demain, faut pas que j'oublie, il y a 18+, tiens, je vais mettre l'abondance de 18+, ah, juste après, il y a Road Trip, ah, mais l'invité aujourd'hui, c'était Jelly Beans, bon, je vais mettre un clip de Jelly Beans entre les deux, ça, l'ordi, il peut pas le faire, quoi. Donc, il faut prendre chaque playlist et rajouter tous ces petits trucs-là, et après, les uploader. Mais oui, l'ordinateur crée déjà un bon chemin de fer, on va dire. Le chemin est créé, il faut juste faire les trucs autour.
T'as une autre question, Thomas ?
Non.
Non, t'as fait le purge ? Bon, d'accord. Alors maintenant, on va entamer les vraies questions. D'ailleurs, je vais essayer de me mettre un petit peu plus derrière pour que tu regardes un peu mieux la caméra. Et après, on te passera la vidéo. Ah oui, parce qu'il y en a un peu marre, parce que vous arrêtez pas de glorifier le Japon. Oui, le Japon, ils sont les meilleurs technologiquement et tout ça. On veut juste savoir si tu connais bien ton pays et toutes ces technologies purement françaises que les Japonais n'ont pas. Est-ce que tu es chaud ?
Ouais, mais je... On n'a jamais trop glorifié la technologie japonaise, mais bon, vas-y, fais péter.
Alors, c'est une techno française, ça empêche de lire en couleur les cassettes.
Ah, le Sekam.
Ça excite les hommes le premier samedi du mois.
Tu connais le plus ?
T'es censé pouvoir téléphoner avec en infrarouge.
Ouais, je dirais un Tokiwoki, mais ça doit pas être ça. Attends, qu'est-ce que ça peut être ? Le Minitel ? Non. En infrarouge ? C'est quoi ? Vas-y, dis-moi, parce que ça m'intrigue.
Le bebop.
Ah ! Oh là là ! Ouais, le truc sorti de l'enfer. D'accord, ouais.
Alors, attention, indice sous votre écran. Tu mettras le synthé, s'il te plaît, Thomas. C'est de la HD en noir et blanc.
La HD en noir et blanc. Mais c'est quoi donc ? Un indice en plus ?
C'est Mitterrand qui l'a institué, en 48.
Alors là, je suis largué, ouais.
Le 819 lignes.
Ah, ça, faut demander à Cyril. Les formats vidéo. Ah ouais, non, je suis largué.
Ça va, ça roule très vite, sauf quand c'est en grève.
Le TGV ? Grand public, là.
Ça empêche de téléphoner d'une cabine publique avec de la monnaie.
La télécarte ?
C'est une grande réussite de défense militaire. Les Allemands en ont fait le tour.
La ligne Maginot ?
Ça vous... Ça vous... C'est... On essaie de vous faire croire maintenant que c'est l'ancêtre du Minitel.
C'est le Minitel.
Je suis désolé, tu vois que ça passe très bien les questions. Alors une dernière pour la forme dans ce cas-là. C'est comme en politique, quand tu veux aller à gauche, il faut que tu rentres en tournant à droite et tu sors en tournant à droite.
Ah, c'est les ronds-points.
Très bien, merci. Tu vois qu'il était chaud. Ouais, merci Alex. Chaud,
c'était pas facile.
Bravo.
Merci à vous, c'était intéressant.
Bravo Monsieur Pilot. Pour toutes ces bonnes réponses, vous avez gagné ce magnifique téléphone portatif Radiocom 2000 qui vous permettra de rester joignable dans votre voiture et de surprendre vos amis en leur téléphonant « Devine d'où je t'appelle ». Tout ceci pour seulement 8 francs la minute d'appel et 6 francs en réception. Radiocom 2000 et le futur est dans votre voiture. Je sais, j'ai été nul sur la fin du mixage. Duce, oui. Toi tu dois te dire, moi j'ai Numéricable et je l'ai pas cette chaîne de branque, j'évite quelque chose de chaud.
Ouais, je sais pas, non mais je regarde même pas Game One, alors bon.
Si, mais Game One quand il y a Avatar, bon. Quoi, mais bon, voilà.
The Last Airbender, c'est deux avatars en ce moment, c'est la version animée.
Non, là c'est la version animée. Ouais, ouais.
On a sur le plateau, on a Solarus, bonjour.
Salut.
Alors, toi, tu es un téléspectateur assidu et un forumer assidu. No Life est l'une des rares chaînes à avoir un forum standard du net.
Oui, c'est une chose qu'il faut souligner parce que, voilà, des autres chaînes, on va sur les forums, les commentaires sont supprimés, les forums sont des fois effacés comme Game One, qui a vu, je crois, 4 forums effacés, ah bah, réinstallés.
Il faut dire que Game One a une vie très 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 agitée entre les rachats, les reprises de participation, les reprises en main des fois assez sévères du staff par la direction. Ouais. Et on en parlait justement dans la précédente interview de Marcus, de tout ça. C'est quand même une chaîne que Sébastien Ruchet et Alex Pilot tiennent en très haute estime et il y a une raison derrière. Est-ce que tu peux, parce que c'est vrai que ça c'est un truc qu'on n'a pas abordé, c'est un peu leur bio.
Ben, c'est-à-dire que ouais, ils ont commencé la télé par Game One, par ces deux points qui est devenu Game One sur le satellite. Ils ont commencé avec leur société de production Pocket Charmy à faire des cours, enfin des docus sur le Japon, sur la culture jeux vidéo qu'ils ont, qui sont diffusés sur Game One, dont, dont Game One a toujours les droits d'ailleurs, puisque c'est pour 10 ans, donc c'est jusqu'en 2013. Et donc ils ont commencé voilà, par faire des docus pour la télé, pour Game One. Et petit à petit, ils ont commencé à vouloir faire Cavalier Seul, à faire les cowboys et à lancer leur...
C'était aussi un petit peu le moment où il y a eu une reprise en main par le staff d'une boîte qui est éditrice de jeux vidéo et qui a pas trop aimé que leur dernier jeu vidéo avec une licence très chère se soit fait descendre en direct par un des animateurs.
Oui, je sais pas si on peut citer les fameux éditeurs, mais
oui, on peut.
Ouais, donc voilà, c'est Infogrames qui avait récupéré 50% du capital de Game One, je crois.
Oui, puisque c'était Canal Plus c'était en coédition avec Canal Plus, voilà. Et Canal se désengageait puisque Messi a séché un petit peu les caisses.
Voilà, voilà. Et donc c'est Infogrames qui a racheté ça. Ils ont pas du tout apprécié que les critiques soient acerbes face à leur petit bébé, quoi.
On va pas dire le jeu en question. Je crois que c'était Tintin, ou ouais. Il me semble. On va encore se prendre des emmerdes. Enfin bref, c'est une chaîne qui est une chaîne avec un statut de société qui normalement doit faire des sous. Et comme ils ont pas de publicité pour l'instant, et pas suffisamment de publicité, puisqu'ils ont pas de chiffre d'audience, puisque les chiffres d'audience jusqu'ici pour les chaînes du câble, c'est uniquement si tu passes sur CanalSat ou sur Numéricable, ce qui s'appelle quand même une oligopole, ils ont essayé un truc qui est plutôt étonnant, c'est qu'ils sont passés par un soutien par leur auditeur, par leur spectateur. C'est un soutien qui du coup permet de regarder les premières émissions, enfin toutes les archives de la chaîne.
Voilà, effectivement, il faut savoir que pour avoir de la publicité, il faut avoir des chiffres médiamétrie. Et pendant 2 ans et demi que la chaîne
existe.
Que la chaîne existe.
Utilise le présent.
Oui, non. Donc depuis les 2 ans et demi que la chaîne existe, ils ont fait sans aucun chiffre d'audimat, donc avec plusieurs soutiens financiers. Et là, la bonne nouvelle est arrivée que Médiamétrie commencerait à prendre en compte l'audience ADSL à partir de juin 2010. Malheureusement, le temps presse et même si les chiffres arrivent en juin 2010, les recettes publicitaires arriveront pas 6 mois, 1 an après quoi. Donc ils ont mis en place ce système d'abonnement. Qui est un modèle qu'on voit beaucoup sur Internet avec certains sites web qui demandent une participation de certains visiteurs plutôt que d'afficher de la pub partout et de déformer leur site web.
Il y a PC Impact qui vient de passer sous ce statut, il y a Bakshish, il y a Rue 89, donc c'est quand même un média alternatif qui est en train de s'installer de ce côté-là,
qui fait
bien chier Alain Finkielkraut et toutes les autres vieilles barbes.
Voilà, c'est un peu le modèle économique de ceux qui veulent effectivement proposer des médias alternatif. Et donc voilà, ils ont proposé ça, un abonnement. C'est pas simplement un abonnement de soutien, ça permet aussi de revoir sur internet toutes les émissions de No Life qui peuvent être diffusées sur internet. Donc
surtout les émissions qu'ils ont produites, voilà, eux, donc ils ont les droits.
Tout le contenu autoproduit. Donc l'émission phare 101% qui regroupe un peu toutes les autres émissions. Format court, très très bonne émission sur les courts métrages.
Thomas, je crois que tu as pas vu le dernier d'ailleurs.
Non, j'en ai loupé beaucoup, on va dire.
Ouais, il dure 1 heure. Hein. Il y a un court métrage fait par des fans autour de la communauté de l'anneau.
Ah bon.
T'es prévenu. Je l'ai pas encore vu.
Le fameux Hunt for Gollum, le fan film autour du Seigneur des Anneaux qui est très très bien réalisé. Et donc voilà, donc tout un tas d'émissions au contenu assez éclectique. Basé toujours sur la culture jeu vidéo, la culture japonaise. Et il faut savoir aussi que donc c'est quasiment l'unique diffuseur de J-Music en France. Et ça, malheureusement, ils n'ont pas le droit de diffuser sur Internet pour.
Pour l'instant, ils n'ont pas les droits.
Précise, la J-Music, c'est la musique japonaise. Hein.
Voilà, la musique japonaise, ça peut aller du visual rock avec des japonais teints en blond jusqu'aux idoles, voilà, les japonaises qui chantent mal mais qui sont jolies.
Ce qui est très amusant d'ailleurs, puisque l'industrie japonaise, c'est la deuxième industrie musicale au monde. Derrière les États-Unis, le nombre de sorties d'albums est absolument conséquent, c'est immense. Ils sortent encore des singles.
Oui, mais en même temps, quelle est la durée de vie d'une starlette japonaise ?
Ah, ça dépend.
Ça dépend parce que les
Pizzi Cato 5, ils existent depuis les années 70. On en passe encore à la radio.
En parlant de, ben, il y a des groupes comme Puffy qui font ça depuis 10 ans maintenant, quoi. Qui sont le groupe phare de la musique japonaise dans le monde, qui est très connu aux États-Unis. Les Morning Musume aussi, qui font ça depuis 99-2000. Donc il y a des groupes à la durée de vie assez conséquente, même s'il y a du renouvellement dans les chanteurs, dans les musiciens. Vraiment c'est des groupes qui ont une durée de vie assez conséquente, contrairement à ce qu'on voit en France. En France, on voit beaucoup d'artistes qui font deux singles, qui s'en vont. Là, on a un panel d'artistes assez réduit, mais qui font des carrières très longues. Donc voilà, c'est
même les idoles japonaises.
Les idoles, c'est des groupes, donc il y a un renouvellement dans le groupe depuis 10 ans. C'est pas les mêmes qui chantent, quoi.
Ok.
Voilà.
Ceci dit, donc, il y a plein de références dans la chaîne autour du Guide du Routard Galactique. Ils avaient donné une échelle de 42 abonnements pour pouvoir survivre en janvier. Ils n'ont pas atteint les 42, l'échelle 42, voilà. Mais ils disent qu'ils vont continuer. Pour l'instant, on ne sait pas d'ailleurs si des émissions vont être supprimées ou
Ils vont
réduites.
Essayer de survivre avec le nombre d'abonnements actuels, mais si on pouvait avoir le nombre d'abonnements requis, ça permettrait à la chaîne de survivre de manière vraiment pérenne et sereine, quoi. Parce que là, ils sont vraiment pas tranquilles. Enfin,
voilà. Oui, ça va être un allègement des programmes.
Ils veulent à tout prix continuer à survivre et c'est très noble de leur part, quoi. C'est n'importe quel groupe commercial aurait annoncé la faillite depuis longtemps, quoi.
C'est justement pour ça qu'ils ont refusé de s'adosser à un groupe commercial. Il y a eu Ankama qui est rentré dans leur actionnariat, mais justement sans vouloir intervenir dans leur grille des programmes.
Si, il fallait qu'ils passent du catch quand même.
Ouais, on attend toujours, hein.
Oui.
On attend toujours le catch, mince. Alix, tu nous as menti. Enfin, lui, il en est dédouané, il n'en fait plus partie. Ceci dit, donc l'interview d'Alex Pilot sera vous pouvez la réécouter évidemment sur le site Supplément Weekend. On va la mettre ensuite en ligne et en vidéo. Alex Pilot aura les rushs, libre à lui d'en faire quelque chose.
Oui, les rushs, moyennant finance aussi. Hein, oh. Non, je déconne.
Tu veux, hein,
non, non, c'est pour rire.
T'inquiète. Ceci dit, on va entamer sortie bande dessinée. Et alors, comme c'est émission numéro 220 et que j'étais à court de papier, je l'ai pas écrite. Voilà, honnêtement.
Oh, l'excuse.
Il s'agit
Tu sais, il y a encore le bon vieux stylo.
Ouais, mais j'étais un petit peu pressé. Et puis, tu sais, j'arrive même pas à me relire. Alors.
Oui, c'est vrai. D'accord. C'était de bonne foi.
J'ai un seul bouquin à chroniquer. C'est un bouquin qui est assez symbolique. D'abord, c'est une licence, il n'y a pas d'autre terme, qui cartonne. Il s'agit de L'Enfeust de Christophe Arleston, que je salue d'ailleurs, qui est un ancien auditeur d'FMR pendant un certain temps, et de Didier Tarquin. L'Enfeust Odyssée, c'est une nouvelle spin-off de la série, puisqu'il y a eu Troll de Troie, L'Enfeust de l'espace...
L'Enfeust des étoiles.
L'Enfeust des étoiles, pardon. Il y a eu les aventures du jeu...
L'Enfeust à la plage.
À peu près, il y a eu le jeune L'Enfeust. C'est une nouvelle série qui s'appelle L'Enfeust Odyssée. Le premier tome s'appelle L'Énigme hors Azur, première partie. Et ça vient de sortir, bien évidemment, chez Soleil, puisque chaque fois que... l'histoire de Soleil, le grand succès de Soleil, ça a été grâce à L'Enfeust, et c'est ça qui a permis vraiment à cette maison d'édition de vraiment exploser, je veux dire, au niveau éditorial. Seulement là, ils ont lancé une série et ils ont fait un pari. Tout le monde parle de la bande dessinée numérique, c'est-à-dire la bande dessinée qu'on peut lire sur son téléphone portable, qu'on peut lire, je vais dire, sur son PDA, sur un petit ordinateur ou sur un ordinateur spécial comme le Kindle.
Le machin là, le livre électronique là.
Oui, exactement, voilà. Je me demandais ce qui se passait. En fait, il a pas démarré le CD, voilà. Qu'est-ce que ça allait donner? Alors, j'ai reçu le bouquin et j'ai voulu lire la bande dessinée au format numérique pour voir s'il y a vraiment une différence. Alors, pour cela, il faut se mettre en condition. C'est très simple. Vous prenez le bouquin, vous allez dans une voiture. Vous démarrez la voiture, vous allez dans un parking quelconque au hasard et vous attendez que vous vous faites chier pour avoir envie de lire la BD. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à vouloir lire L'Enfeust
Odyssey et le téléphone est tombé à court de batterie. C'est ça le gros problème, la bande dessinée numérique. C'est-à-dire que là, j'achète un bouquin. On va dire pour Noël, hein, c'est dans quelques jours, c'est dans 5 jours. Je vais l'offrir à un petit-neveu. Le petit-neveu, quand il sera adulte, il pourra le passer à un frère, une sœur, un copain, voire les copains ne vont pas lui rendre. Mais je veux dire, on peut toujours se transmettre une bande dessinée. En papier, en format carton, en format généreux, quoi. Hein, c'est-à-dire 64 pages, cartonnées, couleurs, quelque chose de généreux qu'on a sur les genoux, qui tient moins chaud qu'un chat sur les genoux, mais je veux dire, quelque chose qui est bien. La bande dessinée numérique, je veux dire, je suis quelqu'un qui est un gros spécialiste du gizmo, etc. Et la bande dessinée numérique, j'ai voulu essayer de me lancer dans la voiture en 2002, en négociant auprès des éditeurs le fait de pouvoir distribuer de la bande dessinée sur les téléphones, sur iMod, voilà, hein, c'est une marque Edit. Et à l'époque, les éditeurs étaient franchement contre, parce que quand on demande 2 euros par gag téléchargé des peanuts en droit d'auteur, croyez-moi, c'est une manière de dire non. Et maintenant, tous les éditeurs disent « Oula, on risque de se faire pirater, on risque de mourir, etc. Il faut trouver des relais de croissance, on n'a plus les revues de prépublication, il y a les blogs qui nous prennent la place, on va lancer la bande dessinée numérique. » Mais voilà, c'est une bande dessinée qu'on ne pourra pas transmettre d'un ordinateur à un autre, ça s'appelle des DRM, c'est les dispositifs de protection technique contre la copie. Et d'un autre côté, c'est une bande dessinée qui est destinée à être obsolète. Qu'est-ce qui dit que le téléphone que vous avez sur la main, là, votre super PDA tout neuf que vous avez acheté d'une marque fruitée, qu'est-ce qui dit que dans 5 ans vous l'aurez encore? Qu'est-ce qui dit que dans 10 ans il sera encore utilisable? Alors qu'un bouquin, je veux dire, tout ce qu'on a besoin, c'est de deux mains, un cerveau et des yeux et ça se lit encore. Une bande dessinée comme ça, bon, le papier va jaunir, forcément. Dans 20 ans, ce sera plus aussi blanc, ça sera un petit peu jauni, mais ce sera encore lisible dans 50 ans. Je ne garantis pas que la bande dessinée numérique, dans 5 ans, dans 10 ans, ceux qui maintenant lisent la bande dessinée numérique, pas en l'achetant, attention, en louant le droit de le lire, pourront encore le lire actuellement. Donc pour moi, c'est clair, je préfère encore la bande dessinée cartonnée parce que je suis un vieux crouton, je suis un vieux couillon. Je lis d'un autre côté le blog de Boulet sur le net, mais ça m'arrive de l'acheter pour l'offrir, pour le faire découvrir. Travailler sur écran, je le fais 12 heures par jour, mais quand même, je trouve ça un petit peu plus agréable de le lire comme ça. Et puis voilà, donc après Thomas, je te passe le relais. Toi, je sais pas quel est ton avis là-dessus.
Moi, j'ai jamais été trop fan de Landfest, pas parce que j'ai pas aimé le dessin, c'est juste que je n'ai jamais fait autre chose que feuilleter. Je crois que j'ai lu un seul album de ma vie de Landfest en entier. Et en fait, j'ai toujours fait que ce que je fais en ce moment là, c'est feuilleter les albums. Et c'est vrai que le graphisme, enfin, moi, il me parle pas. Mais...
Attends, merde, tu es en train de me dire que j'ai oublié de parler de l'album?
Oui.
Alors, donc, l'histoire. Landfest, après son odyssée spatiale, est revenu sur Troie. Il est appelé par Nicomède pour le rejoindre dans les baronnies, là où habitent Cyan et Sixi, et où la pratique de la magie n'est pas bien vue, alors que son pote, le troll Ribus, devenu fou, a été réenchanté et revendu. Voilà. Bon, après, moi, je suis d'accord avec toi. Graphiquement, c'est beaucoup moins intéressant que la série originelle. Vraiment, regardez à la loupe les 6 premiers tomes, regardez à la loupe le moindre gag... La moindre casse, des fois, il y a des petits gags qui sont cachés, c'était de la fouille furieuse. Là, on n'a plus de gags visuels, ça manque de jeux de mots, il y avait des jeux de mots particulièrement, je veux dire, périlleux. Là, il n'y en a pratiquement pas, c'est vraiment dommage. C'est creux, on sent que... Ils tirent sur le filon, ils essaient encore de continuer à vivre dessus, mais Scotch n'a plus la passion folle furieuse qu'il avait autour de cette BD. Didier Tarquin, ouais, c'est un boulot, franchement, c'est une très bonne facture, c'est très bien fait, ça se lit très bien, mais c'est vrai que moi j'étais un petit peu déçu. Voilà. Après, bon, du sport, Solarus, toi tu lisais en numérique, ça t'intéresserait?
Non, pareil, moi je bosse sur ordinateur toute la journée, je rentre chez moi, je préfère avoir un bon bouquin dans les mains qu'un PDF ou un truc électronique à lire, quoi. Mais ouais, Landfest c'est pas mal. Moi j'ai décroché Landfest des étoiles. À partir de là j'ai décroché, mais la première série est vraiment très sympa, ouais.
Du sport est en train de se marrer, je ne sais pas de quoi, mais bon, j'ose pas lui poser la question. Attends, regarde, non.
On va y aller, Geneviève de Fontenay. Mais...
Ah, d'accord, ok. Bon, comme lui. Comme du sport est obligé de cacher ses bouquins de cul, il a des sourires gras devant les Miss France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Supplément week-end numéro 220, une thématique Another World, est complètement différente, je vais dire. Alors, je rappelle qu'on a passé une interview de la chaîne No Life, qu'il faut essayer de trouver le morceau. De musique d'origine, le morceau de musique japonaise qu'on va passer, il n'y en aura qu'un seul tout au long de cette émission. Et en attendant, et ben c'est The Herbalizer featuring What What, mission improbable.
Shining in my face, I wiped away the sleep from my eyes from the beginning. Oh shit, what do you know? Two guys standing with guns at my bedroom window. I played it cool, keep the tools they carried in their hand. Two 357 magnums, one on the bedstand. I had my piece under the pillow, cause that's just how I do. Started to reach for it, felt nothing, I guess they knew. One nigga started laughing and turned to his man. He said, I don't think that she knows about this plan. His man just smiled and nodded his head. Aimed his gun at me and said, get out of the bed. I complied with his wishes, bent down to grab my slippers, nigga number one said, hey now, no funny business, just do what we say and everything'll be cool. You hear a lot of things today, but that number one rule, I said, what the fuck is this shit all about? We could discuss a problem and y'all could break the fuck out. Nigga number one said that we not able to do, but there's a tape deck on your table with a message for you. It said, follow niggas one and two's instructions carefully. A fucked up things will happen if you dare to be a heroine. These orders come straight from the president of the American people. Then the tape just stopped. I looked at my watch. Niggas one and two had their guns up cocked and said it's time to go. Grab your things and get ready. In 13 minutes, we all gotta be jetty. Come on. Sitting in the back of a van with cuffs on my hand. Six secret service men in black, one nigga in tan. Who's driving? For 3 hours we've been riding. Took Route 33 to a very small island and unloaded. Nigga one and two at my side. Number one glaring at me for the whole damn ride. They seem to travel in silence. Express himself with violence and I'm the target. Shoving me back and forth with very, very big guns. What would you do in this situation? No place to run in a remote location. Kept my patience and stuck to the tape's advice. Knew my crew could find me with the Negro tracking device. I wasn't worried, but niggas one and two hurried to step to the door where the president was kept. Punched in a passcode, I watched the door slide open inside. Stood the lead and the president of ropes, and my people said, drop the guns, hop in your van. Get the fuck off the island, go with Captain the man. The Secret Service men, man, what could they do? Here's a lesson, never ever fuck with me and my crew. Check it.
Chronique Cinéma vous est présenté en Dolby Mono sur Round par Thomas. Mon Dieu, est-ce qu'on serait en train de regarder un autre média du futur ?
Oui, voilà. On va encore parler effectivement de nouveaux médias avec donc Avatar, le petit film d'auteur de James Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez et Giovanni Ribisi et donc Stephen Lang que j'avais oublié de noter mais du sport malheureusement m'a rappelé à l'ordre. Alors donc on suit Jack Sully, donc le personnage de Sam Worthington qui est un ancien marine cloué sur une chaise roulante et il accepte la mission de remplacer son frère jumeau pour piloter à distance un avatar, c'est-à-dire un corps créé de toutes pièces par les humains pour infiltrer le peuple Na'vi de la planète Pandora, dont l'énorme réserve de minerais attire les investisseurs terriens.
Na'vi, oui, alors, grosse référence. Planète jungle envahie pour changer le... D'accord.
Ouais, ça rappelle Siège.
Ouais. Pardon, excuse-moi. Je vagabondais comme ça.
Mais une fois dans le corps de l'avatar, Jack commence à prendre fait et cause pour les Na'vis et s'aperçoit que toutes les compensations matérielles possibles ne pourront pas déloger le peuple du gigantesque arbre de vie qui repose sur le fameux gisement.
Arbre de vie. Oui, premier tome, hein. Pur et dur.
Que quoi ?
Le premier tome de la série Sillage.
Voilà. Oui, bah, bon, Arbre de vie, c'est aussi pas mal de...
D'accord, donc je rajoute aussi un film de Jean-David Morvan.
Voilà. Alors, bon, moi, je dirais que c'est du Danse avec les loups like. Hein, puisque, bon, vous prenez Danse avec les loups, vous transposez en Heroic Fantasy, et puis vous mettez un peu de Fable Écolo dedans. Et donc, ça fait Avatar. Alors, ce qui est clair dès le départ, c'est que le scénario est prévisible. En même temps, c'est pas pour ça que tu vas voir le film. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Quand tu vois la bande-annonce, tu t'attends à voir ce que tu vas voir au niveau histoire. Et c'est vrai que dès que le scénario est lancé dans le film, tu sais très bien comment ça va finir. Bon, ça, c'est un peu dommage. Mais après... De toute façon, ce qui fait la force du film, c'est justement le rendu, le côté immersif, mais je vais y venir. Alors bon, évidemment, c'est comme Kevin Costner. Alors le héros, il change de camp à mesure qu'il commence à apprendre les us et coutumes du peuple autochtone. Alors t'as un gros travail sur, en fait, c'est un peu ce qu'avait fait Tolkien avec en inventant les communautés d'elfes et de nains, puisque comme c'était un linguiste, il avait imaginé des créatures pour parler les fameuses langues. Donc là, c'est pas vraiment pour parler, même si la tribu des Na'vis a sa propre langue, c'est surtout pour décrire un monde assez inédit, c'est toujours l'héritage d'autres créations.
Un écosystème complètement créé, comme ce qu'avait fait ce qui avait été fait dans Dune.
Oui, voilà, c'est le propre des grandes œuvres de SF ou d'Heroic Fantasy. Donc là, on a les tribus indigènes, on a toute la thématique des Indiens ou des peuples premiers, on a les rites, la langue, l'immersion dans leur culture, la façon de penser, les divinités, enfin la divinité. Et c'est vrai que si vous voyez un petit peu les réactions des gens après le film, moi je suis dans cette lignée aussi, c'est que la première impression qu'on a, c'est l'immersion dans la planète Pandora. Donc là vraiment c'est le personnage principal du film, plus que les personnages humains ou Na'vi, c'est vraiment la planète. Alors là t'as une création d'un écosystème, justement comme tu disais, enfin crédible, hein. Donc t'as le bestiaire, t'as la faune, la flore, t'as des
avec le budget qu'il a, ça serait dommage s'il avait pas eu de bon consultant.
Oui, voilà, donc c'est vrai que c'est entouré de...
Désolé de... Non, mais sincèrement. Ouais,
ouais. C'est vrai qu'il s'est entouré de pas mal de spécialistes. Après, c'est vrai qu'il aurait eu il a pu avoir de bons consultants, mais après, si t'as l'inventivité visuelle et le procédé créatif qui suit pas derrière, bon, c'est un peu ballot. Là, c'est vrai que c'est suivi, t'as la moindre petite fleur, le moindre pétale ou de tige que tu vois à l'écran, tu dis, oh, c'est beau. Enfin, mais c'est pas que beau, si tu veux, c'est tu t'immerges complètement dedans. Tu as pas mal de scènes à vol de dragons locaux. Là, t'es pris de vertige, donc c'est garanti. Tu as tout ce qui fait le sel des créations visuelles de la belle Heroic Fantasy ou la belle science-fiction avec des planètes à la végétation luxuriante. On pense à Sillage, on pense au film de Miyazaki avec les belles racines, les nuances de vert, de bleu. Bon voilà, là tu vas 2h40 de métrage dans la gueule, tu vois que ça. Donc forcément, t'as les rendus de lumière, t'as pas mal de scènes en nocturne où c'est que des espèces de variations de lucioles ou des variations de lumière qui sont super intéressantes et plein de charme. Donc de ce côté-là, c'est béton. Je parlais de Miyazaki. Bon, alors là, on va dire c'est le premier film live inspiré justement de la thématique de Miyazaki, puisque Cameron, de toute façon, l'avait dit, il s'était inspiré de Mononoke pour faire justement la chevauchée San sur son loup. Ça évoque un petit peu la fiancée de, enfin un peu la copine de Jack Sully sur son dragon dans Avatar. Et
Après, t'as toute la thématique des Miyazaki. T'as l'arbre de vie, t'as, bon, voilà, le mana. Tu as une sorte de, d'énergie collective qui englobe un peu tous les habitants, toute la flore et la faune qui vivent en harmonie. T'as le message écologique. T'as les machines contre les esprits de la nature. Bon, tout ça, t'as dans Avatar. Donc voilà. Quand on sait que Cameron est féru de Japanime et qu'il a, depuis des années, l'ambition d'adapter notamment Battle Angel Alita dans Gunm, bon, c'est pas étonnant qu'il ait laurier là-dedans. Ensuite, l'autre qualité du film, donc là je pense ça va, il va falloir un peu de temps pour digérer ça, c'est la thématique sur l'avatar et le corps alternatif, bien sûr. Bon, c'était un peu un concept qui avait été aussi exploré par Matrix, hein, puisque le gars qui se réveille dans un autre avatar, dans un univers virtuel, sauf que là la différence c'est que le marine en fait va se réveiller dans le corps d'un avatar mais dans le même monde. C'est-à-dire que dans une scène tu as l'avatar qui va essayer de protéger son corps physique, enfin le corps humain. Donc c'est vrai que c'est un côté de doublement qui est assez intéressant, mais encore une fois il faudra revoir le film pour voir toute la richesse de cette thématique là. En tout cas, même après la première vision, et même si c'est très frais parce que j'ai vu le film hier, tu sens qu'il y a quand même pas mal à dire et que c'est pas juste évoqué.
C'est-à-dire il y a une multiple niveau de lecture.
Oui, ça c'est clair, mais
c'est plutôt rare dans des films à ce budget.
Mais
en même temps, c'est le plus haut budget jamais atteint par Hollywood.
Ouais, tout à fait. Puis après, quand tu vois les films de Cameron, à part True Lies, qui était vraiment de la déconne pure remake, et Titanic, qui était vraiment le film romantique par excellence, tous les autres films, tu vois Terminator 2, tu peux pas dire que ce sont juste des films avec un robot qui pourchasse un humain. C'est
oui, t'as aussi, on est d'accord. On est d'accord. Mais justement, à ce niveau de budget, c'est plutôt rare qu'Hollywood accepte qu'il y ait derrière du message philosophique et tout. En même temps, ça incite à revoir plusieurs fois le film.
Voilà. Bon, après, je pense que Cameron.
Très con, quoi.
Voilà, mais surtout Cameron a vendu le film comme une expérience visuelle plutôt que comme un message après qui vient en second temps. Puis après, c'est vrai qu'on a quand même eu affaire ces dernières années à des gros films à gros budget avec quand même un fort message derrière, les films de Peter Jackson par exemple, ou même de Zemeckis. Voilà, c'est ces grands auteurs qui arrivent toujours à faire passer des trucs derrière en seconde lecture. Le film dispose d'une fin ouverte. Donc pour
les balises spoilers en douille.
Voilà, donc juste dit fin ouverte. Bon, c'est bon, le film se clôt quand même, hein, mais c'est vrai que tu avec un monde ainsi créé et puis le fait que bon voilà. Je vais pas trop en dire non plus, mais
on n'a pas évoqué le fait que ce serait une trilogie en fait. Hein.
Si, mais c'est vrai que je pense que ça va dépendre
du nombre d'entrées.
Et puis surtout, comme c'est très très long à faire, bon là il a passé 15 ans à préparer le film parce que la technologie ne suivait pas dans un premier temps. Après, le matériel pour justement la production, la post-production est extrêmement lourd, donc c'est vrai que peut-être s'ils font une trilogie, ils tourneront certainement les deux épisodes suivants en même temps, comme il est de coutume de le faire.
De toute façon, il est jeune encore, Cameron. Hein. Il peut encore attendre 15 ans pour faire le 2, sans problème.
Ouais, mais bon, comme il a parlé de plusieurs autres projets, on aimerait bien aussi qu'il les fasse aussi.
Rappelle qu'il avait parlé d'un Battle Angel Alita, alias Gunman. Il y avait aussi un projet autour de Ghost in the Shell, comme quoi il est très inspiré autour de la manga. Ça.
Oui, et puis c'est vrai que Cameron, tu vois que bon, le gars, il a un passé de bricolo, camionneur, il a fait pas mal, il était routier au départ. Et c'est vrai que tu sens toujours là j'ai eu une interview sur le net qui est assez intéressante puisqu'on lui posait la question, mais en fait dans tous vos films vous parlez du danger de la technologie alors que vous êtes un fanat de technologie. On sent que vous aimez mettre les mains dans le cambouis quand tu vois dans ces films les guns ou les vaisseaux, tu sens qu'il aurait presque pu contribuer à les fabriquer, si tu veux. C'est pas des vaisseaux évoqués à la Star Wars où t'as juste une coque bien huilée et puis t'as des créatures qui sortent. Là tu vois t'as la mise en scène qui s'attarde bien dessus, tu vois les réacteurs, c'est les vrais réacteurs, du cambouis, t'as des câbles et tout. Non, c'est
et bon, tu les vois en maintenance.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est des trucs qui transpirent et qui sentent bien bon l'huile en fait, si tu veux. Et alors, on a parlé beaucoup de révolution à propos du film. Alors bon, c'est clair qu'au niveau du scénario, c'est pas une révolution, hein, c'est plutôt de la ressaucée. Mais encore une fois, c'est pas ce qu'on attend du film. Ensuite, au niveau de la révolution, est-ce que c'est la perfection du monde inventé, les possibilités pour les futurs films, puisque c'est vrai que si on se remémore un peu la filmo de Cameron, tu vois, t'as autant l'alien de Abyss ou le T-1000 ou les effets Titanic, ça a toujours
permis à d'autres réalisateurs de concrétiser leur vision à eux. Donc ça va être quand même l'ouverture vers un autre cinéma au point de vue de la forme. Après, pour le fond, ça va rien changer. Les créateurs auront toujours des trucs à dire. Moi, juste, je vais finir là-dessus par comparer ce film en fait à une autre grosse claque SF de l'année. C'était District 9. Alors, s'il
tout
faut...
autre niveau de budget là, par contre. Hein.
Un autre niveau de budget. Ouais. District 9 jouait plutôt sur le réalisme, sur l'aspect documentaire et sur le fort message politique derrière. Le film de Cameron n'est pas en reste au niveau plusieurs degrés de lecture, mais s'il faut élire un film de l'année, ça va être très très dur entre les deux. Ils jouent pas sur le même registre, mais bon voilà, ça va être suivant. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Solaris?
Je fais un œuf avec les mains.
Ah, tu es plutôt District 9, mais ouais. T'as pas vu Avatar encore en même temps. Hein.
Ouais, mais.
Et c'est vrai que le District 9 a fait une grosse baffe. Bon, après, Avatar est tellement énorme et tellement presque plus viscéral que District 9, où tu réfléchis un peu plus. Et bon, voilà, ça va être très très dur, en tout cas, de lire un film de l'année. Enfin, pour moi, le top 3, pour l'instant, c'est avec Un Prophète. Les trois films se tirent la bourre. Voilà, ça va être très serré.
Il faut déjà qu'on trouve une sélection pour la bande dessinée jeunesse, donc on va en chier.
Voilà, donc je rappelle la référence du film, donc Avatar, qui est sorti mercredi, de James Cameron avec Sam Worthington, qui fait une belle entrée dans l'univers des blockbusters SF avec Terminator 4, Zoé Saldana, qu'on avait pu voir aussi cette année dans Star Trek, Sigourney Weaver, le grand retour sous la caméra de Cameron depuis son rôle d'Ellen Ripley, Michelle Rodriguez. Bon, quand tu vois la film de Cameron, tu sens qu'elle devait figurer dans ces films, parce que bon, vous vous souvenez du soldat Vasquez dans Aliens le retour, bah c'est pareil, hein, c'est le même rôle. Et Giovanni Ribisi, qui incarne un gars plutôt un financier qui a vraiment salopard fini, et bon, et Stephen Lang, c'est c'est l'enculé de base, voilà, le gros militaire qui réfléchit pas. Voilà, donc Avatar, juste un conseil, le film va être pas mal à l'affiche pendant quelques temps, si vous êtes pas pressé, il est recommandé d'attendre, parce que les files d'attente sont monstrueuses.
Ok. Merci Thomas. 13h sur la poubelle des radios, supplément week-end numéro 220, spécial courant alternatif. Si je te dis je me fais chier à Strasbourg, on va avoir quelque chose de regrettable avant la fin de mon mandat.
Ah oui, Rachida Dati.
Exact, interprété par Sexy Sushi. Extrait de la compilation Faire 2010, dont la radio est partenaire.
Je me pose.
les Sexy Sushi qu'on a plusieurs fois produit les concerts sur Toulouse que l'on suit depuis un bail et qui donc est cette fois-ci sur la compilation du Fer, qui est une compilation de la scène rock indépendante dont la radio fait partie des sélections, aide à la sélection avec les Un Rock, Libération et France 4 et même Oui FM pour les Parigots. Du sport.
C'est pas ce qu'il t'avait demandé comme fond sonore.
Non, non, mais pas de suite.
Ah, d'accord.
Non, là, il fallait un truc monumental.
Voilà.
Je suis désolé, je t'ai mis du Vangelis.
Bon,
c'était ça ou Evangelo.
Ouais,
bon. Evangeli, bon. C'est nul.
Est-ce que tu as vu les Gérard de la télé?
Oui.
Alors. Il y a un Gérard. Chantal m'a fait remarquer qu'il y a un Gérard qui n'ont pas décerné. C'est le Gérard de l'émission dont on mange des verres. On voulait savoir si c'était un dîner presque parfait qui allait l'avoir.
Dont on mange des verres.
Oui, oui. Et il y avait Koh-Lanta, plein de
Des verres, d'accord, ouais, VERS.
Okay. VERS, oui. Et on voulait savoir.
Mais, ah oui, mais il n'y en a qu'une de façon dans cette catégorie.
Non, il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs.
Il
hein.
Y a Fear Factor, Koh-Lanta.
Ah, je vais te la retrouver, mais t'en as encore d'autres.
Ouais. T'en as encore d'autres. Enfin, donc juste pour le plaisir, quand même, bon, il y avait quand même quelques animateurs qui étaient présents et donc qui ont reçu leur.
Il y en a deux qui sont montés.
Bah ouais, bah, c'est déjà pas mal, hein.
Oui, ça va.
C'est déjà pas mal. Dont Tex. Hein,
Parce que Tex a une catégorie qui lui était dédiée, ouais. C'était attention. Alors, non.
Bah alors, Tex, le temps qu'il trouve là, parce que tu sais, l'informatique c'est vachement rapide. C'est fait remettre le Gérard de la pire imitation d'un accent étranger.
Fait par Tex.
Hein,
donc forcément il l'avait. Voilà, Gérard de la pire imitation d'un accent étranger par Tex dans Les Amours.
Et ensuite, voilà. Quoi l'accent étranger?
Alors dans les nominés, il y avait l'accent belge dans À ce qui paraît à Bruxelles, les gens ont la frite une fois. L'accent juif séfarade dans Aïe aïe aïe, si man, fils, il y a plus de cuir taille de 34. L'accent suisse dans Oh, un Suisse, oh bon, on va pas se presser, il y a pour le feu au lac. L'accent camerounais dans Ah, dis donc, je viens de manger là, dis donc. Et l'accent algérien dans Si tu veux pas de couscous, je t'ai fait le couscous.
Et c'est lequel qui a gagné? Le couscous.
C'était le camerounais.
Ah, le camerounais.
Le plus glock des quatre.
Ah, le plus glock, oui.
Ensuite, rien que pour le plaisir, quelques autres prix. Patrice Carmouze qui a obtenu le Gérard de l'animateur de compagnie. Il a quand même battu Sandrine Quétier et Pierre Belmar, ce qui n'est pas une mince affaire.
Pierre Belmar, animateur de compagnie.
Maintenant, il a plus.
À part le téléachat, Pierre voilà. Belmar.
Moi, je dis que Ariane Massenet aurait bien pu concourir. Hein.
Ouais, mais enfin,
elle était
bon.
Dans la section.
Ah, Ariane Massenet, c'est quand même l'une des.
Le pot de fleurs.
Non, c'est quand même l'une des nanas qui doit être nominée à chaque Gérard depuis la création des
et
Gérard.
Et c'est la nana donc. Qui, le jour où Michel Denisot n'est pas là, n'anime pas l'émission. Ouais,
ça, c'est énorme. Voilà. Michel Denisot qui s'est vu décerner le prix de l'animateur à qui plus personne veut faire la bise parce qu'à force de lécher le cul à ses invités, il a.
Il a la langue
il a la haine de tout à l'aigu.
Et il a battu Michel Drucker hein, là-dessus.
Oui, il a battu Michel Drucker.
Ah, non, là,
qui a été élu,
avec
qui élu animateur tête à claque. Et l'animatrice tête à claque, en fait, c'est la copine, enfin, c'est la nana qui était chez Morandini, qui est passée chez tout le monde, hein, chez Sébastien aussi. Et maintenant, elle est avec Drucker, c'est Faustine Bollard.
Oh là là, ah oui, non, ça, voilà. Je suis d'accord à 100%.
Donc entre autres hein, comme parce qu'il y a quand même plus de prix comme ça quoi, juste pour la bonne bouche. Alors vas-y, maintenant tu peux balancer ton générique qui tue de l'enfer de la mort.
Ah d'accord.
Voilà.
Ah putain, parce que j'ai les Gérard qui sont lancés sur l'autre truc, donc c'est un petit peu agaçant.
Ah ouais, mais c'est ça l'informatique, ça va vachement vite.
Allez hop.
Un peu de bip bip là.
Avec une ligne de basse monstrueuse.
Ah là, il y aura pas de bip bip dans cette version.
Qu'est-ce qui s'est passé la veille de la diffusion du premier épisode?
Un plantage?
Presque. Et on fait allusion dans le remake de la série, dans le tout premier épisode d'ailleurs. Ah, du sport, là, il est en train de chercher. 1964.
Une absence de réseau.
Non, une info très très lourde.
En 64?
Et on le voit,
la guerre froide.
Exactement,
la mort de Kennedy.
Ah.
Et du coup, ils ont été obligés de repasser le premier épisode puisque tout le monde était accaparé à cause de ça.
Ah, d'accord.
Ouais, personne n'avait regardé.
Voilà, d'où l'apparition du docteur dans la mort de Kennedy qu'on voit dans le premier épisode de la première nouvelle série.
Avec Christopher Eccleston.
Voilà. On se demande qu'il aurait mieux fait de ne pas aller chez Rose, lui. Dudus ?
Alors, c'est Doctor Who, donc. Et là, je parle absolument à tout le monde, sauf à toi, parce que je pense que tu l'as déjà vu, comme t'es le geekophile suprême en ce qui concerne Doctor Who, tu as certainement déjà dû le rapatrier par des moyens légaux ou illégaux.
Non, pas encore.
C'est le Doctor Who spécial Noël qui sera diffusé vendredi prochain sur France 4.
Aha.
Et qui en fait était le Doctor Who spécial Noël de l'an dernier pour nos amis grands bretons. The Next Doctor, qui est en fait un épisode qui est à part, mais qui est dans la ligne chronologique, est situé après la fin de la saison 4.
Je crois que The Next Doctor vient à peine d'être diffusé en Angleterre, Dus.
Non, là c'est Noël 2008. Hein.
Ah, mais c'est le duel entre les deux docteurs. Parce que c'est un acteur anglais là qui est assez connu dedans.
C'était pas un épisode Noël, c'était un final. Hein.
Alors donc, cet épisode, vu quand même par 11,8 millions de téléspectateurs, ouais, c'est là-bas, de l'autre côté du channel, ce qui est quand même pas mal, hein, parce que quand on a un super match de foot et tout, on arrive à faire du 7-8 millions hein, en Ligue des Champions.
Ok,
maximum,
j'ai rien
quoi,
dit, c'est
quoi.
Bien l'an dernier.
Et non mais bon, laisse tomber quoi. Et donc c'est vendredi prochain qu'il est diffusé. Ça tombe bien, hein, vendredi prochain, on sera le 25 décembre. Hein, si mes calculs sont exacts.
J'ai essayé de convaincre mes parents de regarder Doctor Who, ça va pas être gagné. Hein.
Ouais, non, ça va peut-être pas être gagné. Mais si tu leur dis qu'après cet épisode de Doctor Who spécial Noël, The Next Doctor, il y a un épisode de la saison 4, une croisière autour de la Terre avec Kylie Minogue.
Ah oui, bon, on l'a vu 45 fois celui-là.
Peut-être que là.
Ouais, il est assez fun.
Oui. Oui, c'est vrai.
Ok, bon, Doctor Who, donc...
Oh, il est déçu, là, il est blasé.
Non, mais bon. Doctor Who, donc, vendredi prochain, 20h35, c'est sur France 4. Et là, on va rester dans le monde de la bande dessinée, avec les bandes dessinées adaptées pour la télé. Et ça démarre sur M6.
Ah, 13.
On avait déjà pu le voir sur Canal+, mais c'était encrypté, donc voilà, quoi. Là, ça démarre sur M6 ce soir, 20h40. Si je vous dis 1984... Si je vous dis 19 volumes, si je vous dis Van Hamme et Vance...
Ouais, non mais ça va, je l'ai massacré la semaine dernière.
Ouais, bon, je sais que tu les portes pas très dans ton cœur.
C'est Jason Bourne.
Alors, Jason Bourne, Jason Bourne, en fait, c'est Steven Dorff. Et le méchant, c'est Val Kilmer, la mangouste.
Qui ressemble absolument pas au physique du personnage dans la BD. Hein.
Non, pas du tout.
À noter que c'est un téléfilm qui a été diffusé sur NBC et ils ont tenté de le diffuser en face d'un grand événement, puisque je crois que c'était la cérémonie des Globe Awards. Et ils s'étaient pas trop ramassés. Donc ça a plutôt bien marché, même si c'était une audience qui était pas énorme, pour une série qui est inconnue aux États-Unis. Hein.
Ouais, non, mais bon, il y a Steven Dorff, quoi, tu vois.
Je me mets à leur place, ils ont eu Jason Bourne, ils voient ça, mais c'est quoi ce truc
Ah ouais, mais bon, c'est ce soir sur M6. Par contre,
oh, mince.
Autre adaptation de bande dessinée, là, c'est plutôt de l'animé. C'est sur Canal J à partir de vendredi prochain, 10h15 du matin, c'est... alors, si je vous dis... le chat, c'est... Le chat du héros principal, c'est Raoul Chat-Tigré. Allez, Basile, c'est son assistant. Allez, 40 albums.
C'est Léonard.
Tout à fait, Turc et de Groot.
Oh, punaise.
Donc, qui est,
ils l'ont adapté.
Oh, punaise. Adapté, donc 70 épisodes de 8 minutes. La production a été confiée à Ellipse. Ellipse, c'est ceux qui nous ont fait tous les Tintins, là. Tu sais, les Tintins animés, quoi. Donc, c'est eux qui ont fait
ça. Oui, c'est très, très
qui
bon.
Ont, qui ont fait Garfield aussi, quoi.
Ellipse anime, et plus exactement.
Léonard, donc, 6 millions d'albums, quand même, de vendus, hein, qui est apparu en 74 dans Achille Talent Magazine et ensuite dans
chez
Pile
Tintin.
Gadget.
Et après, dans Tintin.
Donc, la bande de Turc et de Gros. Donc, c'est sur Canal J. À partir de vendredi prochain, 10h15. Alors, une petite gâterie pour ce soir, pour ceux qui connaissent pas.
Cool. Cool. Il y en a qui ont l'esprit très très mal tourné ici.
Mais avec un mensonge éhonté de la part de TF6. parce que ça s'appelle Police Squad l'intégrale, alors qu'on ne diffuse que 6 épisodes sur les 13 qui existent.
Oh là là.
Cette série à l'origine est sortie, a été montrée à l'écran sur ABC en 1982, alors de manière très épisodique. Hein,
je préfère quand tu le dis à l'anglaise, merde.
Vous allez comprendre pourquoi pour, par la suite, parce que le sujet traité et la façon dont c'était traité, tout ça nécessitait pas de toute façon une diffusion répétitive et continue, hein, et relativement chaque semaine, quoi. Mais par contre, bon, bah ça a twisté pas mal de gens, pas mal de personnes. C'est devenu un petit peu culte et tout. On comprend parce que le personnage principal est devenu bien le héros de certains films par la suite. Certains très bons, certains très mauvais. Mais enfin bon, toujours avec ce personnage culte. Je vais bien entendu parler du lieutenant Frank Drebin.
Ah oui, bah oui, y a-t-il un flic
Leslie Nielsen, Zucker Abrams, donc qui ont produit cette série qui s'appelle Police Squad et qui en ont produit ces 13 épisodes avec le lieutenant Frank Drebin qui fait que des conneries qu'on a l'habitude et tout. Les 6 épisodes qui vont être diffusés sur les 13 existants, c'est ce soir sur TF6 à partir de 20h40, La Promesse Brisée, Une Mission Dangereuse, Bien Mal Acquis, L'Alibi Coupable, Terreur dans le Quartier et Les Cadavres ne rient pas. Et outre Leslie Nielsen dans cette série, donc instillée par les frères Abrams et Zucker, on a également Alan North qui joue le rôle de son supérieur et Peter Lupus qu'on voit également dans Mission Impossible.
C'est le baraqué, ouais.
Voilà quoi, donc c'est ce soir sur M6. Ou alors au niveau série, encore pour les pervers ou pour ceux qui n'ont rien d'autre à foutre que ça, il y a sur Série Club à partir de lundi prochain et du lundi jusqu'au vendredi tous les jours à 19h, La Famille Safari. Ouais, rappelle-toi d'Actari.
Oula.
C'est quoi, c'est un truc vieux ou quoi?
Non, c'est tout récent quoi, c'est tout récent. En fait, c'est l'adaptation américaine d'une série britannique qui s'appelait Life is Wild, dans laquelle t'as des gens qui sont des urbains. Alors là, dans cette adaptation, ce sont des gens qui sont de New York et tout, et qui vont partir voir quelle est la vie sauvage en Afrique du Sud. Tu vois, et bon, dans Life is Wild, c'est pareil, sauf qu'ils partent de Londres et tout, et qui vont en Afrique. Alors là, ok, quoi, c'est vraiment pour les gens qui ont rien d'autre à foutre et tout, et qui se disent, oh, qu'il y a des jolies bêtes et tout, c'est magnifique, c'est joli, c'est très bien. C'est sur Série Club, à partir de vendredi, lundi prochain, donc, tous les jours, 2 épisodes, hein, c'est des formats courts, c'est des 25 minutes. Vas-y, fais péter d'Actari, là.
Là, j'ai honte sur le coup.
Et pourquoi ?
Bon, allez, je mets un truc qui tape.
Non, c'est bon. Parce que justement, dans les films, la programmation de films pour la semaine, on est dans la semaine de Noël.
Eh oui, du dessin animé, des films avec des animaux.
Oui, et de des films avec des chiens.
Ah, plein d'autres bestioles.
J'en étais sûr.
Le chat de l'espace.
Il n'est pas là, le chat de l'espace.
L'année dernière, c'était des chats, des chiens et des. Et c'était quoi ?
Ouais, je sais pas, je m'en rappelle pas.
Faut que j'en retrouve le résumé, ouais.
Alors, ce soir, il n'y en a pas tant que ça, hein, figurez-vous.
Ah oui, non, si. Le titulé, c'était avec des chats, des chiens, avec des chats, mais surtout des chiens, t'avais dit.
Ouais, parce qu'en fait, il n'y avait pas tant que ça de chats. Là, c'est pour ça que j'assure mes arrières et j'ai marqué et plein d'autres bestioles. Ça, je suis tranquille. Et je peux mettre ce que je veux aussi, quoi, tu vois, quoi. C'est, un petit peu l'alibi quoi quand même quoi. Alors samedi ce soir
sur TF6, parler de nation terroriste
sur
oui.
TF6 après Police Squad les rats. Ça commence bien. -12 de John Laffy en 2002 avec Matt Chalamic, Vincent Spano et Michael Howard sur Disney Cinemagic ce soir également à 20h30 Monstre et Compagnie. Donc de Silverna sur Dr Silverman et Unkrich le
Pixar
animé, le Pixar ouais. De 2001. Demain sur France 2 20h35, là c'est même plus du full frontal, c'est du écrase-face quoi. monstrueux quand même. France 2 qui propose Happy Feet de George Miller à 20h35 et tout, donc les autres en face.
Les pingouins,
Non mais c'est un des meilleurs films de l'année 2006 quand même quoi. Hein, toutes catégories confondues, Happy Feet. Donc il y a pas de problème. W9 demain soir 20h35. Vaillant pigeon de combat de Gary Chapin, tu l'as vu ? Bon, il est sympathique, mais sans plus quoi. C'est sans plus. Mais c'est suivi à 22h05 du secret de Loch Ness. de Michael Robbins. Bah oui, il y a une bête aussi dedans, quoi. C'est pas... Il y a une bête. Lucas Schust, Lisa Martinek et Thomas Fritsch. Lundi sur TF1, c'est une rediff, mais c'est Hubert et le chien de Laurence Catrian en 2006. Rappelle-toi le téléfilm avec Christophe de Chavannes et son chien.
Oh merde.
Il le rediffuse donc.
Celui qui était dans la ferme, hein.
Ouais,
ou dans, bah, alors, dans Aspi Paul.
Non, pas celui de la roue de la roue de la fortune. Non, un autre chien, quoi.
Notre chien, d'accord.
C'est la c'était l'une de ses premières participations comme héros principal dans une fiction, tu vois, genre ah, je fais l'acteur maintenant, tu vois, quoi. Avec Marie Guillard également et Rosie Vart. C'est lundi sur TF1 à 20h45. Sinon Canal+ Family vous propose lundi à 20h45 Ratatouille de Brad Bird, ou alors sur France 5 lundi à 20h35 Microcosmos, là aussi il y a que des bêtes dedans. Perrenou et Nuris Dany en 96, ou alors sur Sifi à 22h15, et là tenez-vous bien, Malibu Shark Attack de David Lister en 2009.
Oh,
avec Peta Wilson, René Bowen et Warren Christie. Alors j'ai carrément recopié le pitch qu'il y avait dans le, dans le programme,
fais-nous rêver.
Parce que sinon, vous me croyez pas, un tsunami ravage la ville de Malibu et fait remonter à la surface des requins préhistoriques. Il y a des bêtes dedans.
Ce que Spielberg a fait, ils le refont moins bien, quoi.
Ah oui, non, mais bon, c'est classique, ça. C'est un gros classique, les requins. Sur Teva également lundi. Sur Teva également lundi. Alors là, il y a carrément les deux films, hein, à 22h20, un Noël de chien. C'est allemand, enfin, une coproduction. Austro-allemande, de le premier Noël de chien 2004 avec Florian Fitz et Nadesha Brenicke, et on retrouve les mêmes dans un Noël de chien 2, mais c'est pas le même réalisateur une année plus tard, hein, c'est Krav Winkel. Donc, et le Noël de chien 2 est diffusé à 23h55 sur Teva. Toujours lundi, et bien sur Disney Ciné Magic à 22h30, Rox et Rookie, ah ouais, quand on était petit. Ou un peu plus grand même. Mardi sur TF1 à 20h45, Le Monde de Narnia, hein. Alors bon, d'accord, ok.
Aucun intérêt.
Et bah donc on se tournera plutôt sur M6 à 20h40 pour regarder Garfield de Peter Witt
avec la voix de Coé.
Super.
Mais avec Jennifer Love Hewitt.
Super. Quand même.
Sur Canal Plus Family à 20h50, toujours mardi, Babe le cochon de la ville, dans la ville de George Miller, hein, sympathique pour ceux qui l'ont pas vu. Et sur Comédie, mais c'est en version multilingue, donc c'est pour les pervers qui l'ont déjà vu en français mais pas en anglais. À 20h40, l'inspecteur Gadget de David Kellogg avec Matthew Broderick, Joely Fisher et Rupert Everett. Je suis désolé, mais il y a un chien dedans. Hein.
Oui. C'est Fino, ouais, c'est là. Fino le chien.
Ouais. Sur TF6, toujours mardi à 20h40, Hellboy.
Il y a des bestioles.
Grave quoi.
C'est pas pour les ch'tis d'enfants, ça.
Non, c'est pas pour les ch'tis d'enfants. Et sur Disney Sea Magic, mardi prochain à 20h30, 1001 pattes, le John Lasseter et tout, qui est sympathique également. Mercredi. Oui, vas-y.
Assez marrant dans les allusions. C'est assez brutal, hein, des fois. C'est pas l'humour Disney, c'est l'humour Pixar, attention.
Bah oui, ça c'est clair. Hein. Mercredi sur Canal Plus Family à 20h45, le Grinch de Ron Howard, hein, qui est sympathique, vraiment
oui.
Cool. Enfin, moi, mes enfants, ils l'ont vu 5 fois déjà, ils demandent toujours à le revoir, donc bon, bah.
Ils s'en inspirent.
C'est juste Jim Carrey dans le 150e rôle où il est grimé et qui fait les grimaces.
Voilà.
Pareil qu'ils s'en inspirent, tes gosses.
Mais par contre, sur Canal Jimmy, et là, c'est pas avec des chiens, c'est pas avec des chats. C'est pas avec des bestioles, c'est qu'avec des humains. Ah. Et ça va faire plaisir. Parce que je voulais chercher de loin, et la fois qu'on est tombé dessus et tout, quoi, avec Christian, on s'est regardé, on s'est dit, oh putain, enfin, surtout moi, quoi, d'ailleurs. C'est Lucha Mania du Catch CMLL. Wow. Ouais, Catch Mexicain. C'est sur Canal Jimmy, mercredi prochain, 20h40, avec tout d'abord le combat entre Mystico et Negro Casas. Alors bon, bah c'est catch mexicain, alors ils sont masqués et tout, tu vois.
C'est de la lucha.
Ouais, c'est de la lucha.
Lucha libre.
C'est de la lucha libre. Et à la fin, le perdant, le vainqueur enlève le masque du perdant. Tu vois.
Ça veut dire qu'il met fin à sa carrière. Attention, hein, s'il enlève
le
masque.
Non, parce que dans les combats, des fois, il y a le masque qui est arraché. Oh, pardon, excuse-moi. Qui a fait partie du truc, quoi, tu vois.
C'est plus symbolique. Ton identité secrète est découverte.
Comme il y a également des mecs qui sont démasqués dès le départ et tout, quoi. Alors là, il leur coupe les cheveux. Mais par contre, ce qui va être plus intéressant. Alors, Mystico, moi, je l'ai vu la dernière fois, je suis tombé dessus par hasard. Bon, il est pas mal et tout, quoi, tu vas voir, quoi. Mais par contre, ce qui va être vachement mieux, c'est le combat entre, simultanément, entre 4 japonais et 4 mexicains.
Alors là, ça risque de dépoter pas mal.
Ouais.
Donc c'est mercredi prochain sur Canal Jimmy, 20h40. Lucha Mania.
Ça va changer de la WWF. Hein.
Ah ouais, ouais. Non, WWE.
Oui, ils ont changé. Ouais, ils ont changé de lettre.
Ouais, ouais, bon, parce que là, ça commence à être un peu lourdingue, quoi.
Seulement maintenant.
Ouais, non, mais bon. Alors, on continue avec notre programmation classique. Jeudi prochain sur France 3 à 22h10, Chicken Run de Peter Lorre et Nick Park. Et sur M6 à 23h45. Alors là, tu te demandes ce qui se passe dans la tête des programmateurs. 23h45, généralement, c'est l'heure où tu passes les téléfilms qui sont moins 12 ou des épisodes qui sont un peu heavy, des trucs comme ça, voire un peu olé olé. Et là, M6, parce qu'en plus, M6 est quand même le spécialiste du film du dimanche soir à 23h45 qui est du moins 16.
Hein, ça fait longtemps qu'ils le font plus.
Non, ça fait longtemps qu'ils le font plus. Bah, c'est normal, ils ont été grillés par RTL9 et TMC. Maintenant, même TMC le fait, alors qu'ils parlent, quoi. Mais par contre, à 23h45, jeudi prochain sur M6, Picsou, le trésor de la lampe perdue.
Bah ouais, mais c'est pas de Noël.
Non, c'est le 24 jeudi.
Hein, ouais, c'est le 24. Donc, ça
bah
va
c'est
le faire
normal.
Alors, Picsou qui a.
Mais c'est full frontal. TF1 diffuse en différé la messe de Benoît XVI. Qu'est-ce que tu veux mettre en face?
Je sais pas.
Il faudra coller.
Picsou, la lampe perdue, il est très très bien en plus.
Ouais, il est pas mal, il est sympa.
Attends, on va voir.
Je mets la musique d'ascenseur, voilà. Patientez dans quelques instants la suite de votre programme.
Il y a un bêtisier de Noël.
Bah oui, forcément.
Oui, mais 15 minutes après.
Mais présenté par Victoria Silvstedt.
C'est l'ancienne Miss France, elle, ou je sais plus.
Non, c'est la roue de la fortune.
Et tu n'as pas encore regardé les épisodes de Victoria et de Vie Parfaite?
Ah bah non.
Tu nous pries, hein.
C'est ce qui s'appelle des arguments de poids.
D'accord, celle-ci, elle est notée.
Alors jeudi, toujours sur Canal+, à 20h45, Horton de Jimmy Hayward et Steve Martino, qui est vraiment bien, sympathique et tout. Moi j'ai bien aimé.
Assez déconcertant, mais très bien.
Mais c'est bien, quoi. Suivi de, à 22h10, Ratatouille. Donc là, c'est vraiment la soirée Noël.
À plein de Pixar.
À fond, là. Hein, à fond.
C'est plus que...
Bah, tu veux passer quoi, des Disney?
Jeudi sur TPS... sur TPS
ouais,
Star,
Asbin, t'as raison.
Jeudi toujours sur TPS Star à 20h40.
Là, c'est fait.
Nico le Petit Renne, ça c'est une production nordique de Michael Egner et Kari Yusonen de 2008. Mais qui est pas mal, hein, franchement, qui est pas mal. Sur TMC, c'est la soirée Histoire sans fin avec les deux, c'est-à-dire l'Histoire sans fin de Petersen à 20h40. Et à 22h15, l'Histoire sans fin 2 de George Miller. C'est sympa. Le premier, il est vraiment bien, quoi, de toute façon. Deuxième, un peu différent. C'est pas exactement le même esprit, hein, on va dire. Mais bon, ça vaut le coup. Sur NRJ 12, par contre, là, 20h35, Mega Shark versus Octopus de Jack Perez en 2009 avec Deborah Gibson et Lorenzo Lamas. Suivi de 22h20 de Qui veut la peau de Roger Rabbit de Zemeckis.
Indémodable.
À fond. Puis Disney Cinemagic également, cadeau de Noël avec la soirée à 20h30, Wall-E. Et à 22h30, Les Indestructibles. Hein, donc, ok, rien à dire. Et par contre, vendredi.
Tous les Pixar.
Ouais.
Et Toy Story qui passe pas, c'est tout.
Non. J'ai pas de Toy Story, désolé, quoi. Vendredi sur TF1, 13h55, Sauver Willy de Simon Windsor. Parce qu'il y avait quand même John James Richter, c'est le héros principal, c'est le gamin. Laurie Petty, Michael Ironside, Simon Windsor à la réalisation. Attends, mon gars.
C'est dans le 3 qu'il y a Hulk Hogan. C'est dans le 3 qu'il y a Hulk Hogan, je crois.
Ouais, peut-être. Ouais. Je l'ai pas noté. Sur Canal Plus Family, vendredi à 20h45, Horton, à nouveau. Sur TPS Star, vendredi 20h40, Alvin et les Chipmunks.
Dont la suite va sortir bientôt.
Est actuellement au cinéma.
Oui, voilà.
Et sur RTL9, on vous fait la suite du Willy qui est passé sur TF1 avec Sauver Willy 2 à 20h35. Celui-là, c'est le Dwight Little 2 ans plus tard avec toujours Richter. Michael Madsen qui remplace Michael Aron.
Toujours dans le rôle du gentil.
Et Francis Capra.
C'est le black copain de Véronica Mars dans la série.
D'accord.
Mais pas le black, son copain à l'école, celui qui est chef de bande, là, tu vois, quoi. Le motard, le chef de la bande de motards. Et Sobey Willy 3 à 22h15 sur RTL9, donc de Sam Pillsbury, avec toujours Richter et Anna Schellenberg, mais j'ai pas noté Hypogang, alors peut-être que.
Peut-être que j'ai confondu aussi.
Ouais. Sur W9, vendredi prochain, 20h35, 1h du mat, pour ceux qui ont jamais vu Dinotopia, c'est sympa, c'est bien, mais c'est vachement long. Fait 4 heures quand même, hein, de Marco Brambilla, avec Tyrone Lezzo, Wentworth Miller, Dai Tulis, Alice Krige, j'en passe et tout. Enfin, c'est sympa quand même, hein, c'est vraiment pas mal. Disney Cinemagic, le vendredi prochain, à 22h30, vous propose les 102 Dalmatiens de Kevin Lima avec Glenn Close, Depardieu, Yann Gruffudd et tout. Enfin bon. Et le dernier film, il n'y a pas de bestiole dedans, si, certainement, c'est le film de Cinéfix du vendredi soir, et c'est pas du Hercule, et c'est pas du Massiste.
Non,
mais pourtant, le...
C'est du péplum.
Non, c'est pas du Jean Rollin?
C'est Jack le tueur de géants, de Nathan Juran. Avec Kerwin Matthews quand même, donc Kerwin Matthews qui nous a fait du OSS 117 un peu plus tard, quelques années plus tard. C'est Jack avec également Judy Meredith et Taurine Thatcher.
Ma foi, Thomas, ceci est un cadeau, il est très exactement 13h30.
Ah.
J'adore ça. Tu sais qu'il y en a qui, sur leur tuner, il y a encore des gens qui nous écoutent en direct.
On les en remercie toujours.
Ah ouais. Et du coup, ils ont manqué le début.
Ah.
Ils peuvent pas revenir en arrière.
Eh ben, on a la solution. On peut faire le résumé de l'émission, puisque c'était une émission spéciale média de demain avec la présence parmi nous de Solarus pour Laïus autour de la chaîne No Life. On a diffusé une interview en exclu de Alex Pilot, directeur des programmes de No Life. On a eu du Lamfest sans batterie, du Danse avec les loups chez Nausicaa, du retour du docteur, du un quiz musical, de la bait, du catch avec des Japonais, des Mexicains et des arguments de poids.
Nom d'une zapette magique, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions, regarder nos chroniques, regarder nos liens en ce moment. Par exemple, dans les chroniques, il y a Assassin's Creed, l'amande dessinée, le premier tome, Dieu en personne, prix ACBD. Et dans les liens que l'on a mis pour le plaisir, il y a la bande-annonce du nouvel Iron Man qui sortira en avril et le Viande d'origine française, le documentaire sur le film gore français qui donc est disponible en téléchargement libre. Tout cela, c'est sur le site suppléantweekend.fr. N'hésitez pas, ça nous fera plaisir. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM. Et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, pas cette semaine, hein, on sera en plein dans la crise de foi. Je sais pas, peut-être la semaine prochaine. La semaine suivante, j'ai pas idée encore.
Pour les réseaux sens, on aura un trait pour E.G.I. Joe pour bien démarrer l'année avec une bonne bouse.
Mmh, ah oui, à ce point?
Ah ouais.
Ah, oh, ça tombe bien, on va pouvoir jouer avec nos jouets favoris.
Ouais,
on va se les exploser. Super. Avec des gros pétards mammouths, tu sais, tu mets E.G.I. Joe et tout, et puis ça les enterre.
Tu les fais fondre au briquet et tout.
Non, on les planquait derrière les crottes de chien, et comme les crottes de chien explosaient après.
Ça fait. Ouais.
Voilà, ciao, bye bye, on se donne rendez-vous dans 15 jours, même heure, même fréquence et de suite, c'est du sport, ciao, bye bye.